s'invite donc à prendre place. On vous remercie, mais avant de vous remercier, je voudrais remercier Monseigneur Dieudonné Zapalinga, qui est au terme d'une tournée importante en Europe et qui a accepté pour la deuxième fois de donner son témoignage sur une situation qui a radicalement changé entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé, moi-même, et j'étais en Centrafrique, au mois de novembre, qu'il était important que vous entendiez, pour ceux qui l'ont déjà entendu, comment une situation peut tenir du miracle. Et Monseigneur avait déjà touché infiniment ceux qui l'avaient entendu il y a 2 ans, et voilà pourquoi j'ai souhaité, après une semaine très vive et vivante à Amsterdam, où il a reçu en compagnie de l'imam, de Bangui, du pasteur de Bangui, mais aussi de Angela Merkel, le prix Roosevelt pour la liberté de culte en Centrafrique. Et voilà toute chose importante à faire connaître, parce que éventuellement les médias ne le disent pas clairement. Et nous avons cette grâce ici, au siège de Head to the Church in Need, de pouvoir accueillir de tels hôtes. Et c'est la possibilité aussi pour moi de saluer Monseigneur Ouédraogo, qui est archevêque de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et président de la conférence épiscopale, de même que Monseigneur Dieudonné est président de la conférence épiscopale de Centrafrique, accompagné du Père
Prosper.
Soyez véritablement les bienvenus. Et là, vous avez même des jeunes qui vont être attentifs à votre présentation. Merci, Monseigneur.
Merci beaucoup à Christine. Merci à chacune, à chacun d'être là en cette soirée. Je veux commencer par les jeunes, parce qu'elle a terminé par les jeunes. À vous, jeunes, je voulais dire que Dieu existe. Quand je dis ça, vous allez dire, ouvrez les yeux, mais il est où? Comment on va le voir? Montrez-le. On veut le toucher. On veut le voir. Eh bien, il existe dans ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur, moi, je ne le sais pas. Et ce qui passe dans le cœur de l'autre, tu ne le sais pas. Et pourtant, parfois, tu entends une voix qui te dit, oui, il existe. Oui, il n'existe pas. Tu te poses des questions. Mais il faut te dire, il existe. Et une fois que tu as dit, il existe, quelque part, tu es sauvé. Parce que tu as pris la bonne décision, tu es sur la bonne voie vers ce Dieu-là. Je le dis parce que moi, je suis un homme de Dieu et je peux dire qu'il existe avec tout ce que j'ai vécu en République centrafricaine il y a 2 ans. Je suis venu ici, j'ai partagé la situation difficile des gens qui sont arrivés de partout avec des Centrafricains, qui sont venus du Tchad, du Soudan, et ils sont rentrés par là avec les Centrafricains pour prendre le pouvoir. Il y avait eu beaucoup de massacres, beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Et pourtant, nous qui sommes les hommes de Dieu, on est restés au pays. J'ai demandé aux chrétiens d'ouvrir la porte de l'église. L'église est notre mère. C'est pas seulement dans les théories, il faut qu'on traduise dans les faits. Et dans les églises, les gens dormaient parce qu'ils étaient menacés dehors, avec les armes, avec les couteaux et tout. Ils venaient dormir là. Ils sont partis sans quelque chose. Ils dormaient par terre. J'ai dit, dans un diocèse qui s'appelle Bosangwa, l'évêque était absent. Un des prêtres m'a demandé, il y a un peu de menace partout, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ouvre l'église. C'est dans le terrain du diocèse que toute la population s'est rassemblée. On aurait pu imaginer qu'il puisse avoir des catastrophes. Mais Dieu, il a son plan qui nous déroute. Il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Je veux parler de choléra et autres maladies et tout. Parce qu'une petite portion, et tu as une concentration. Repense à des promiscuités. Et c'est, certes, ça en a été. Mais les gens sont restés unis. Parce que plus ils vont se disperser, ils sont exposés, aux ennemis qui peuvent les supprimer. Et nous avons choisi qu'ils restent ensemble. Nous avons dit, Dieu doit les protéger. Et Dieu le protège par les prêtres, par les sœurs. Je dis aux sœurs, ouvrez vos maisons. Il y a des gens qui dorment même dans le bureau des prêtres. Parce qu'ils étaient menacés aussi. Et c'est là où ils dormaient le lendemain pour sortir. Il faut qu'ils sentent la protection de Dieu. Mais à travers le prêtre, à travers la sœur, à travers le chrétien qui les accueille. Nous, avec la situation qu'on a connue, il y a 2 ans, je vous ai parlé, on pouvait imaginer intenable, impossible. On se demandait par où trouver la solution. Nous avons eu la solution par le clin d'œil que le Saint-Père nous a fait en acceptant de venir en République centrafricaine. Certes, le leader religieux, l'imam, le pasteur, nous sommes 3, dès le début, à nous lever en disant c'est pas la guerre des religions. Les musulmans sont nos frères. Les protestants sont nos frères. Nous devons vivre avec eux. C'est les enfants créés à l'image de Dieu. Ce ne sont pas nos ennemis. Et nous devons les aimer. Et depuis, on continue non seulement à le dire, mais à le vivre. J'ai accueilli l'imam chez moi pendant 6 mois. Je respectais ses conditions alimentaires. Mais il a vécu avec sa femme, ses enfants, parce qu'il fallait sauver des vies. 3 jours après, quand il a quitté, sa maison était par terre. Tout. Heureusement, sinon peut-être lui aussi serait parti. Moi, j'en avais besoin de sa présence pour continuer à témoigner de la vie. Et je me suis dit, il fallait qu'il soit avec moi pour que je le protège. Quand on parle protection, ce n'est pas seulement théorique, il faut que ça parte dans l'existence, dans notre vie. Et nous avons eu ce clin d'œil. Nous, leaders religieux, on avait adressé la demande au Saint-Père. Peu de temps après, nous avons eu le nonce qui nous avait dit, alors le Saint-Père a l'idée de venir chez vous. Il faudrait que vous, les évêques, vous puissiez écrire. Et que le président, la présidente aussi écrive. C'est comme ça, parce qu'il est aussi responsable de l'État. Nous, les évêques, nous avons écrit. La présidente a écrit. Nous avons envoyé. Le jour où nous avons appris la venue du Saint-Père, le 19 janvier 2016, moi, c'était le jour où on avait kidnappé une Française. Elle était en otage. Moi, j'avais décidé en disant, cette dame est venue pour faire du bien en Centrafrique, comme volontaire. Maintenant, elle vit dans l'inconfort. Moi aussi, je ne veux plus dormir dans mon lit. Je veux rester sur une chaise jusqu'à ce qu'elle sorte. J'avais pris 2 chaises. J'étais assis et l'autre chaise, je mettais mon pied pendant 4 jours pour attendre sa sortie. Je me dis qu'il faut être solidaire jusqu'au bout. Et ce qui s'était arrivé, le 4e jour, 5e jour, on est parti et on l'a sorti. Pour continuer les négociations et tout. Elle dit, les nuits sans sommeil. On lit ça, Saint Paul en parle et tout. Quand on vit, on découvre le sens de ce que ça représente. Mais c'est pour sauver une vie, pour un message bien particulier. Donc j'étais dans cette condition quand j'ai appris que le Saint-Père devait venir chez nous. Vous voyez que c'était la première épreuve pour moi. On aurait pu éclater, chanter, commencer à faire la fête, le Saint-Père vient chez nous et tout. Mais non, j'étais là au moment où il y a la prise d'otage, l'épreuve. Et quand on a annoncé sa venue et qu'on a commencé à préparer, 1 mois avant la venue du Saint-Père, il y avait au mois de septembre et octobre, on va dire des bourrasques, des violences terribles, qui a même fait penser qu'il ne pourrait plus avoir la visite. Je vous dis une histoire. L'ambassadeur de France m'avait appelé en disant, on a entendu, le Saint-Père, la diplomatie vaticane vient de dire, le Saint-Père espère venir en Centrafrique. Vous savez, chez nous, quand, dans le langage diplomatique, quand on dit quelqu'un espère venir, ça veut dire qu'il ne viendra pas.
Donc on préfère vous le dire. Donc je dis, mais non, chez nous, les chrétiens, les catholiques, l'espérance est autre chose. Quand on dit qu'on espère venir, ça veut dire, oh, mais ça c'est beau. Abraham avait espéré qu'il aura beaucoup d'enfants, il aura une terre promise. Eh bien, il a eu. Moi, j'espère qu'il viendra. Et il viendra. Moi, je m'accrochais à cet espoir-là, cet dernier espoir. À un moment où il y avait la grande crise, on est parti dans un quartier où il y avait beaucoup de violence. On a demandé à un jeune qui était en stage, séminariste, si le pape ne venait pas. Il a dit, si le pape ne vient pas, nous serons sous terre. Parce que c'est le dernier espoir qui reste. Et vous savez, c'est les musulmans qui ont dit, c'est le dernier espoir qui reste. Tout le monde attendait la venue du Saint-Père. Plusieurs fois, m'a demandé, j'ai dit, il faut que le pape vienne. C'est le dernier espoir, c'est le peuple qui réclame la venue du Saint-Père. Ça veut dire que c'était, tout le monde avait jeté le dévolu sur la venue du Saint-Père. Si bien que quand on nous a demandé s'il doit venir, j'ai dit oui, il doit venir. Et est-ce que les risques de sécurité sont réduits? On a dit, eh bien, lui et nous, on met notre confiance en Dieu, on sait que Dieu nous protégera. Et quand il est venu, tout à l'heure, Christine parlait de miracle. Nous avons eu le miracle. Avant de venir, vous avez entendu plusieurs fois qu'il ne pouvait pas venir. Même la veille, le matin, on disait, dans sur les ondes, ce n'est pas sûr qu'il ira en Centrafrique. Quand l'avion s'est posé, ça a été un soulagement énorme. Avant même que l'avion ne se pose, il y avait des gens depuis 2 ans qui habitent sur l'aéroport, qui ont tout perdu. Mais eux, ils savent voir l'avion au loin, ces pauvres-là. C'est eux qui ont vu l'avion. Ils ont commencé à crier. On a dit, ça y est, l'avion arrive. Un quart d'heure après, l'avion était là. Ils ont appris à sculpter le ciel, à voir les avions qui arrivent au loin et le dire. Nous, nous avons pensé, avec sa venue, ça a été le déclic. Alors qu'on nous présentait, qu'on nous annonçait l'Apocalypse, n'a pas eu lieu. Nous avons eu vraiment la liesse populaire. Les enfants, les jeunes, les scouts étaient unis pour protéger. Et je pense que sa venue a été un grand soulagement, un grand réconfort, signe de la tendresse de Dieu, pour nous, je peux le dire. Et en même temps aussi, avant de venir, il a dit, je veux aller voir les musulmans. Je veux aller chez les protestants. C'est lui-même qui a demandé. Le dimanche, normalement, on avait prévu qu'il y ait concert et aussi qu'il devait adresser un message aux jeunes. Il a dit non. On va commencer par la porte sainte. C'est chez vous. Il a posé un acte inouï que dans l'histoire de l'Église, on n'a jamais eu. Et je peux vous donner encore en vous disant, avant, quand on avait l'impression que tout était bloqué, lors d'une réunion avec les ministres et d'autres personnes pour la venue du Saint-Père, alors qu'il restait 2 semaines, ils nous disaient, non, c'est pas possible. On a regardé un film qu'il nous a envoyé en nous disant, je viens chez vous en messager de paix. Je viens de rassembler tout le monde et j'invite tout le monde à prendre le chemin de cette paix. Quand on a fini le reportage de 5 minutes, les gens commençaient à pleurer, à s'embrasser. Spontanément. Parce qu'on a dit, on vient de loin, il y a quelque chose qui se prépare pour nous. Et on s'est senti concerné par la venue du Saint-Père, parce qu'il vient pour apporter le message de paix. Et quand il est arrivé, il est allé voir les politiciens avant. Moi, j'ai trouvé aussi très fort cet acte qu'il a posé. Il est allé à la présidente voir les politiciens. Il a prononcé le premier discours pour demander aux politiciens d'arrêter et surtout de faire le choix d'aider le peuple en utilisant la devise chez nous, unité, dignité, travail. Il nous a dit, passez de l'autre rive de paix. Vous allez avoir les élections, il faut accepter ça. Je pense que ce message est passé. Les gens ont entendu. Quand il y a eu les élections, alors qu'on nous avait promis aussi la catastrophe, les gens se sont alignés dignement et chacun est parti poser son acte civique. Nous n'avons pas, les gens n'arrivaient pas à croire. Parce que le pape est passé, il a rencontré les policiers, il les a sensibilisés, il a invité à reprendre en main le destin pour construire ce pays qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup des atouts, et que pour des raisons égoïstes, on fait souffrir les pauvres. Les gens ont entendu. Il est allé voir les protestants. Moi, c'était marqué parce que, étant donné, en préparant, ils avaient dit, le pape, il est âgé, il va falloir préparer une table, il va s'asseoir, il va rester assis pour parler. Il y avait celui qui devait parler, qui a parlé, et le président, le doyen de la faculté qui a parlé, et le président des alliances des évangéliques. Au moment où le pape devait parler, eh bien, lui, il a pris son discours, il s'est levé, il est allé aussi là-bas. Ça, les protestants ont commencé à applaudir. Donc, ils avaient compris. Ils ont dit, cet homme, c'est un homme d'humilité. Alors qu'on lui demande de rester là, il fait comme tout le monde. Il se lève aussi, il vient pour prononcer son discours. Il a dit, nous sommes des frères. Certes, l'histoire nous a séparés et tout avec les circonstances. Il faut qu'on se sente, nous croyons à la mort, à la résurrection de Christ, qu'on se sente des frères. Les protestants ont été très marqués, non seulement par son humilité, mais le fait qu'il nous rappelle que nous sommes des frères et que nous devons continuer. Je le dis parce que ça m'aide dans ma mission, dans mes relations avec les protestants maintenant, avec la relation avec les musulmans, plus tard quand je vais en parler. Il a tenu à aller à la mosquée. Les gens disent non, ce n'est pas possible. On a tout fait, mais il a insisté. Tu dois aller voir les murs. Et quand il est revenu, il dit, si je ne venais pas à la mosquée, il me manquerait quelque chose. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. C'est la même histoire d'Abraham. Vous trouvez dans le Coran. Vous trouvez dans le livre des Juifs. La Bible. Et vous trouvez aussi chez les chrétiens. Nous sommes tous des frères. On n'est pas des ennemis. Que la religion ne doit pas être instrumentalisée, utilisée pour tuer, pour détruire. Les gens ont aussi entendu. Il a posé un acte qui a marqué les musulmans. Alors, ce n'était pas prévu dans le protocole. Ils ont fini le discours, il a demandé une chaise, il s'est assis, il s'est déchaussé. Il a pris la main de l'imam, ils sont allés là où prêche l'imam, habituellement, sans rien dire. Il est resté en silence. Et ils sont ressortis. Les gens regardaient. Et il m'a dit, j'ai prié pour la paix en Centrafrique. Ça a marqué les musulmans. Il est allé là où prêche notre imam. Et avec les pieds, pas comme parce que nous, on peut rentrer dans leur mosquée avec les choses, ça leur dit rien. Parce que toi, tu es un incrédule, tu ne crois pas, tu ne sais pas l'importance. Donc on peut te pardonner. Mais un bon musulman doit enlever ses chaussures. Par respect pour eux, il a posé cet acte-là. Il est allé se positionner et les gens ont vite compris. Finalement, le miracle a eu lieu le jour où le pape, en rentrant dans ce quartier qui était quartier, on va dire, enclavé, en sortant, les musulmans sont sortis en masse. Sans avoir peur, parce que la veille ou avant, chacun avait peur de l'autre. Il a dit, n'ayez pas peur de l'autre, allez à la rencontre de l'autre. Il est allé, il est sorti. Beaucoup sont sortis pour venir maintenant en ville. Et il n'y a pas eu de mort. Et nous avons vu là le miracle, ce qu'on ne peut pas expliquer avec la raison, notre entendement qui nous dépasse. Et nous l'avons vécu. Le fait que les musulmans soient sortis, vous pouvez imaginer, les bourreaux, les ennemis, plus les gens puissent dire, voilà, c'est lui qui a tué mon frère, ma soeur, et puis s'en prendre à lui. Non. Les gens, étant notre dynamique, il n'y a pas eu de règlement de compte. Donc il y a eu un grand miracle chez nous. Les gens disaient, bon, c'est un jour, deux jours. Quand le pape est parti, deux jours après, moi j'ai décidé d'aller marcher dans le quartier, parce qu'il y avait des checkpoints, chaque barrière, avant de rentrer d'un quartier à l'autre. Je suis arrivé, le premier quartier, j'ai demandé au prêtre, j'ai pris le prêtre, j'ai pris un journaliste pour aller. Les gens voulaient venir, je dis non, parce que je ne sais pas. S'il y a quelqu'un rencontre son bourreau là-bas, je vais porter ça sur ma conscience. Vous allez attendre un peu. Moi-même, je vais aller à la rencontre. C'était un no man's land, c'est 200 mètres, mais personne. Il y avait les herbes. Depuis 4 mois, personne ne traverse. Il y avait les herbes partout. Et nous, on a décidé de traverser. Sans armes, mais avec la foi. En croyant en ce Dieu qui existe. On va aller, parce que là-bas, il y a nos frères qui sont là-bas. Et nous sommes allés, ils étaient là, ils se levaient tous pour nous regarder. Et tous sont arrivés. Évidemment, c'est normal qu'il y ait la colère. Ils ont commencé à nous parler, à déverser le truc, l'agressivité. J'ai entendu, et tout. Je viens vous voir, le pape est venu. Maintenant, il n'y a pas de raison. Il a quitté Rome pour venir jusqu'à chez nous. Et moi qui suis juste à côté, je ne veux pas venir. Non, il faut que je vienne vous voir. Et je suis allé aussi dans une des mosquées avec l'imam pour prier. J'ai fait le tour pendant 2 heures du quartier. Parce qu'il faut que les esprits soient marqués par le fait que nous sommes en train de tourner la page. En train de passer de l'autre côté de rive. Il ne faudrait pas seulement rester, en parler, mais il faut. Les pieds doivent traduire cela aussi. Les comportements doivent traduire. Les paroles, les gestes, notre être doivent être l'expression de cette démarche-là, de la miséricorde que le pape est venu instaurer dans notre corps, dans notre pays. Et ce que nous avons essayé de faire. Les barrières qui étaient partout, un jour, sont arrivées. Certains peut-être l'ont vu ou ont écouté à la radio. Il y avait des jeunes. Ça faisait 4 mois. 5 à 100 mètres, il y avait les copains. Mais ils sont tous armés. Ils se regardent en chien de faïence. Je suis arrivé avec mon véhicule. Parce que pour vous dire, dans le pays, au monde le plus fort, il y avait que les véhicules militaires qui circulaient. Mais le seul véhicule civil, c'était mon véhicule. Qui circulait. Authentique, vous pouvez vous renseigner, et historique, hein, on peut vous renseigner. Le véhicule civil, c'était mon véhicule qui circulait. Mais les autres ne circulaient, pouvaient pas circuler. Et tout. Donc je suis arrivé, au checkpoint, j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous voulez aller dans le quartier pour voir vos copains? Depuis 4-5 mois, vous n'avez pas vu. Ils ont dit oui, on veut y aller. Je dis, alors, venez avec moi. Il y avait une vingtaine qui voulaient venir. Mais les jeunes, ils avaient leurs armes. Ils avaient les grenades avec eux. J'ai avancé un pas, je leur dis, tous ceux qui ont des armes, qui ont des grenades, qui les déposent. Ceux qui croient en Dieu, ils peuvent venir avec moi. Dieu va nous protéger à l'aller comme au retour. Je leur ai dit ça. Il y a certains qui ont accepté, d'autres qui ont refusé. Un des chefs a pris son arme. Il a donné son élément en disant, tu prends mon arme, je pars avec mon Seigneur. Et ils sont venus, ceux qui sont venus, ils sont venus sans armes. La véritable arme, c'est l'arme de la foi. La présence de Dieu que je disais, qui est dans notre cœur, qui nous dit que les armes que l'on porte physiquement, c'est rien. On a une force plus forte au fond de nous. Et nous sommes allés, les gens se levaient, qui arrivent et tout. Moi, j'étais devant. Vous voyez, quand Jésus marche, il n'est pas derrière, il est devant. C'est le danger, c'est lui qui prend avant. Il ne se met pas derrière. Donc, c'est devant, il est derrière moi. On a marché, on est arrivé, j'ai salué les autres. Ils ont commencé à retrouver leurs copains. Et c'était l'IS aussi. Nous sommes allés jusqu'à voir l'imam pour le saluer. En disant, j'ai pris, parce que ce geste fort, je voulais que les jeunes fassent éclater leurs barrières. Qu'ils aillent à la rencontre de l'autre. Et qu'ils puissent communiquer, qu'ils puissent se dire des choses, qu'on se retrouve. C'est ça aussi, le sens de la réconciliation. Eh bien, nous sommes allés au retour, parce que ce que je faisais, je n'ai pas alerté les militaires, ni les gens. C'est un acte de foi que je posais. Il y a un des jeunes, comme le diable n'est pas loin, qui est venu avec la moto et qui a dit à ceux qui étaient, quand on les a dépassés, « Vos affaires avec mon Seigneur, on n'est pas d'accord. Quelqu'un ose traverser pour venir chez nous, on va le tirer dessus. » Et bien, ça a fait un attroupement, beaucoup des gens. Nous, on était au loin, on voyait l'attroupement, on disait, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on dit, mais tu viens de nous dire qu'on doit maintenant aller vers la paix, que le pape est venu et tout. Voilà, un autre qui arrive et tout. Et j'ai essayé de calmer. Il n'y a pas eu de coup de feu, mais c'est le début de la paix. 2-3 jours après, vous allez dans d'autres quartiers pour demander, lever les barrières. Aujourd'hui, moi, je vous parle. Si vous allez dans Vongi, il n'y a plus de barrière où vous avez des jeunes qui sont assis avec les armes. Impossible, mais vrai. Le miracle existe. Nous, maintenant, on s'en rappelle qu'on peut en parler. Parce que nous avons vu de nos yeux ce que la présence du pape a fait en touchant le cœur des uns et des autres. Finalement, nous disons, il est temps de reconstruire ce pays. J'étais très marqué aussi quand il y a eu les élections. Après le premier tour, il y a eu des candidats qui discutaient. Nous sommes allés, nous, leaders religieux, les rencontrer pour leur parler de l'importance de l'enjeu politique, social, national du pays. Après, ils ont compris. Ils ont laissé. J'ai dit, pour la paix sociale, pour ce peuple-là, qui mérite autre chose, votre guerre de se vous positionner, qu'on doit tout recompter, est-ce que ça vaut la peine aussi? Eh bien, ils ont accepté. Quand il y a eu le deuxième tour, celui qui a perdu, alors que ceux qui le soutenaient demandaient à ceux qui le revendiquent, qui protestent, il a dit non, je ne fais pas. Et quand je suis revenu, il est venu me voir en disant, mon Seigneur, je vous vois. Il m'a expliqué en disant, certes, nous sommes allés aux élections, je sais qu'il y a des imperfections, mais moi, je n'ai pas voulu, pour le bien du pays, ne pas me lancer dans les contestations. J'ai renoncé, j'ai accepté le fair play. Il a dit, je félicite celui qui a gagné. Et ça nous a valu la situation actuelle où on a un président qui est maintenant accepté, un président qui circule et qui témoigne autre chose. Celui qui a élu président, quand on regardait, il n'était pas prévu hein, parmi les favoris. Et pourtant, le peuple l'a choisi. Donc, je peux vous dire qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau actuellement en République centrafricaine. On peut circuler dans la ville, ce qui était impossible avant. Même le soir, dans notre pays, il existe des armes, beaucoup de grenades, mais les gens ne les utilisent plus. Donc, nous devons apprendre aux gens à vivre sans les armes. Ça, c'est le défi. Je n'ai pas besoin d'armes. Un enfant a besoin plus d'un stylo pour aller à l'école. Un ouvrier a besoin de son matériel pour aller travailler, pas des armes. La référence n'est pas l'arme. Et nous avons besoin de notre Bible, notre foi, pour continuer à croire en Dieu. Je ne vais pas monopoliser pour la parole. Je vous remercie.
Les armes existent encore. Les gens les ont gardées. L'étape suivante et comment vous pensez que ça peut se faire de désarmer la population et qu'il n'y ait plus cette crainte, parce que c'est, il suffit aussi peut-être de pas grand-chose, d'une étincelle pour qu'on revienne à la situation suivante.
Alors, l'étape prochaine, on vit absolument ce que j'appelle le cessez-le-feu. Parce qu'à présent, on disait cesser le feu, les gens tiraient toujours. Maintenant, cesser le feu, ils déposent les armes par terre. Donc, il va falloir récupérer ces armes-là. On leur a promis de l'argent contre ces armes. Et moi, je dis, le vrai désarmement, c'est dans le cœur et dans la tête. Si moi, j'apprends à étudier ou à travailler pour gagner ma vie, j'ai pas besoin de cette arme-là. Les 50 000 francs qu'on va te donner, c'est pour 4-5 jours. Regarde, tu as appris un métier, c'est pour toute ta vie. Et nous, on essaie maintenant, par les biais des partenaires, à donner des possibilités à ces jeunes-là pour faire un travail ensemble. Et en même temps, on dit, à travers ce travail-là, musulmans, protestants, catholiques, mettez-vous ensemble. Les jeunes, vous le savez, vous leur donnez un ballon, ils vont tous jouer. Donc, il ne faut que des lieux qui rassemble tout le monde. Et maintenant, il y a les Nations Unies qui réfléchissent pour trouver des moyens pour pouvoir récupérer ces armes-là. Il faut dire que on est là en Centrafrique, mais autour de nous, c'est pas la quiétude. Hein. Les armes venaient beaucoup du Tchad. Or, on sait bien que en Libye, c'est la grande porte. Il y a beaucoup d'armes. Donc, ça transite, ça traverse là. On sait bien au Soudan, ça arrive là. Congo démocratique était à feu aussi, ça arrive là. Congo-Brazza, on a eu. Donc, nous, vraiment, on est pris en sandwich. Donc, les armes étaient partout. Mais maintenant, il faudrait que les Centrafricains se disent, nous, on n'a plus besoin d'armes. Je peux acheter autre chose que acheter des armes. Parce que quand ils achètent des armes, et ils se mettent à une barrière, ils arrêtent les gens, ils gagnent leur vie avec. Nous voulons pas que ce soit un gagne-pain. Mais il faut que je propose une alternative. Pas seulement dire déposer les armes. Mais lui, ça fait plusieurs mois ou années qu'il vit maintenant avec ça. Qu'est-ce que je lui propose quand il dépose les armes? Et c'est ça, le challenge actuellement. Et tout. Et nous avons apprécié le signal fort que le président a envoyé. Dans son gouvernement actuel de 23 ministres, il n'y a pas eu des miliciens. Elle les a laissés de côté. Balaka, comme Seleka, personne n'est dedans. Et ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents. Ils ont dit, nous, on aurait pu nous donner quelques ministères. Et lui, il a dit, non, on va régler votre problème dans le cas de désarmement, parce que vous avez plus des armes. C'est là où je dois trouver des solutions pour vous. C'est le grand débat. Même actuellement, ils continuent à les rencontrer pour apaiser, pour leur faire comprendre cette logique-là. Et je pense que c'est un signal fort. Que c'est pas par les armes. Sinon, c'est quoi? Toujours ceux qui prennent les armes et qui cassent, et on donne la prime à la casse. Et nous, qui sommes les enfants gentils, comme dans le fils prodigue, on fait comment? On nous donne rien, même pas un petit chevau pour faire la fête. C'est seulement pour la fête, pour l'autre qui a tout cassé. C'est la question aussi.
Déposer les armes quand le coup de feu n'a pas été tiré, ça semble quelque chose de possible. Mais quand des crimes ont été commis, comment est-ce que le nécessaire travail, le devoir de justice peut être fait, et en même temps, pour alimenter la paix, le pardon peut être aussi déployé.
Oui. Nous avons, nous les leaders religieux, on avait dit, un des noms de Dieu, c'est la justice. Notre Dieu, c'est Dieu des pauvres, des opprimés, ceux qui sont oppressés. Il est de leur côté. Et nous pensons qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour répondre de ses actes. Plusieurs fois, les gens prennent des armes, ils font le coup d'État, il y a l'impunité. Et c'est pas bon. Il faut envoyer aussi un signal fort. Que tu as cassé, tu dois réparer. Et nous, en même temps, en tant que religieux, nous disons, même si on parle de réparer, aujourd'hui, j'ai perdu un frère. C'est pas parce qu'il a fait 5 ans en prison qu'il va me ramener mon frère. Il faudrait que moi, je fasse un acte de foi pour faire le deuil de ce frère-là, pour accepter qu'il est possible de vivre encore avec ce bourreau-là. Ça veut dire pardonner, offrir un don, une chance, ouvrir une nouvelle page avec les limites, les fragilités, les difficultés que nous venons de traverser pour vivre ensemble. Et c'est ça, c'est là où nous croyons, on est attendu. Parce que avec, si on reste au niveau humain, on est horizontal. Vient un moment où il faudrait que la dimension transcendantale joue son rôle. Ça veut dire que on a besoin de l'appel. Ce Dieu-là, pour nous apaiser. Ce n'est pas les 200 000 qu'on va te donner pour ta maison qui va te calmer. Tu as une affinité avec ta maison, tant t'es bien que tu as tout perdu. Mais je fais un acte en disant, oui, Seigneur, tu me donneras encore plus comme Abraham. Et je crois. Et je dis ça aux gens. Croire contre toute espérance parfois. Et ça doit nous animer. S'il n'y a plus d'espérance, c'est fini pour nous. C'est fini. Et au cœur de ce trouble-là, de cette obscurité, il doit y avoir les lueurs d'espoir. Et nous, les hommes de Dieu, on doit le dire. Et on doit non seulement le dire, mais témoigner exemplairement de ça. Pour tirer les gens vers le haut. Dans notre pays, maintenant, la question de Dieu n'est plus taboue. Les gens savent que c'est les hommes de Dieu qui ont pris la parole pour parler. Et nous, on ne cherchait pas le pouvoir. Hein. Quand les gens m'ont dit, eh ben, tu seras député, j'ai dit non, je ne serai pas député. J'aurais pu l'être. Hein, parce que le pasteur avait accepté d'être dans l'Assemblée. On m'avait proposé aussi d'aller. J'ai dit non, j'y vais pas. Je reste conforme à mon choix. Tout ce que j'avais fait comme engagement, c'était pas pour devenir député. Et après, les gens disent, mais c'est pour chercher à être président. Je dis, non, vous me verrez jamais être candidat présidentiel. Même quand ils sont venus me demander, non. Sinon, c'est trop facile. J'ai utilisé la religion pour arriver aussi là. Non. Je reste conforme à mon engagement. Je suis un pasteur. Mes brebis étaient menacées. Je me suis engagé à leur côté pour les défendre contre les loups qui les dévoraient. Donc maintenant, que les gens rendent compte aussi. Mais nous, hommes de Dieu, on a proposé autre chose que dépasser seulement le côté humain.
Les trois professions dont vous parlez avec vos deux confrères représentent quelle proportion de la population ?
À nous tous, on représente 90%. Ah oui, c'est un pays croyant. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Si bien que quand nous on parle ou on écrit une lettre pastorale, le président tremble. Ah oui, 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 il y a plus de voix. Et comme maintenant, par exemple là, on avait décidé, au début, c'était pas évident. C'était plutôt du côté protestant où il y avait, on dit, est-ce qu'on peut pas franchir? Nous, on a dit non. Il faut rester carrément dehors du champ politique pour porter notre rôle, jouer notre rôle. Donc avec l'imam, on était ce côté. Je crois maintenant, le pasteur nous a rejoints, on est en dehors. Il a vécu un temps dans les députés de transition, il a vu aussi, maintenant il nous a rejoints. Et donc on est en dehors du champ politique pour parler en tant que pasteur. Donc ça c'est une grande proportion quand nous on parle. Et nous, c'est inouï ce qui arrive chez nous, que les jeunes musulmans protestants se retrouvent ensemble, maintenant à travers ce que nous avons initié, pour discuter, parler. Et nous disons, il faut respecter l'autre. Je ne viens pas pour le convaincre. Je ne viens pas pour l'obliger à devenir croyant. Mais les gens eux-mêmes se laissent toucher. Et vous voyez, avec notre crise, il y a quand même un genre de sursaut. La crise, souvent, n'est pas souvent négative. Hein. C'est une opportunité aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté positif là dans cette crise-là. Avec cette crise que nous avons eue, je vous ai dit tout à l'heure, on avait eu beaucoup de gens. Il fut un temps où on disait beaucoup de nos fidèles partaient du côté du protestantisme. Avec cette crise que nous avons eue, où beaucoup ont vécu un an, deux ans, dans les églises, beaucoup reviennent. Il y a une paroisse, ils ont 900 catéchumènes. C'est normalement les grandes paroisses qui avaient ça. Mais les gens qui étaient protégés ont dit non, on a compris que la seule église, c'est l'église catholique. C'est elle qui nous a protégés. C'est elle qui nous garde. C'est elle qui nous donne l'espoir, parce que même si on donne 10 euros pour que tu puisses te propulser dans la vie, hein, pour faire un peu de commerce, c'est toujours ça. Parce que pendant la crise, les pasteurs, les fidèles sont venus, tous dans les églises catholiques. Donc, ils étaient tous là. Donc, ça a donné une autre ampleur. Il y a des endroits où je suis allé. Comme je dis, il n'y avait que moi qui pouvais circuler. J'allais, je rencontrais les pasteurs et tout le monde, là, dans ces lieux-là. Donc, les gens aussi ont vu ce qu'on représente. Et puis, avec la venue du Saint-Père, ça a changé beaucoup. L'année dernière, nous avons envoyé plus d'une cinquantaine de jeunes au séminaire. Les jeunes qui ont 6e, 5e, 4e, 3e. Cette année, avec la venue du pape, je pense que ça risque d'être plus. Donc, on a beaucoup de séminaristes. On a beaucoup, on va en avoir 3 qui vont être, 4 qui vont être diacres. Mais plus tard, je pense qu'on va, avoir plusieurs vocations. On espère que ce sera des vocations solides et nous pensons les partager, l'expliquer en disant, même chez nous, Il y a des diocèses qui sont pauvres. Il y a un diocèse qui s'appelle Alindao qui n'a pas un missionnaire. Et pourtant, c'est fondé par un prêtre spiritain. Avec les événements actuellement, on a encore des rebelles dans ce diocèse-là. Et personne n'ose aller là-bas. Mais il faut aussi comprendre, les sœurs qui étaient là-bas ont vécu des situations difficiles. Pendant 5 mois, tous les matins, dès que les rebelles arrivaient, elles couraient pour aller en brousse. Elles restaient jusqu'à 13h, 16h. Et ils arrivent, parce qu'elles avaient peur qu'on puisse les violer et tout. C'est intenable. Donc c'est un traumatisme aussi terrible pour ces sœurs-là. Et après 5 mois, elles ont craqué, on dit, on doit rentrer. On peut pas tenir. Ainsi. Donc, jusqu'à présent, elles hésitent à repartir encore dans le diocèse. Donc, c'est un diocèse qui n'a pas de missionnaire. Nous, on dit, à Bangui, j'aurai 3 futurs diacres. Je vais envoyer un là-bas. Parce qu'il faut pas que les missionnaires viennent toujours d'ailleurs. On doit commencer nous-mêmes à envoyer là où il y en a pas. Moi, je vais envoyer. Actuellement, où je vous parle, j'ai des séminaristes qui sont en Corée, qui ont appris le coréen, qui étudient en coréen. Il leur reste 3 ans. Et après, ils vont rester comme missionnaires aussi là-bas, diocèse, envoyés là-bas pour étudier, pour être missionnaire. Moi, j'ai des prêtres coréens chez moi. Il faut que ce soit dans les deux sens, les échanges. J'ai des prêtres béninois qui sont arrivés chez moi. L'année prochaine, j'enverrai des séminaristes. Et plus tard, ils vont rester au Bénin, comme Fidei de Noumo aussi, pour échanger. Dieu a encore une place dans le cœur. Je pense ici aussi, même ces jeunes-là. Et derrière. Je crois que le pape a donné un signal fort dans cette année de miséricorde. Le cœur, c'est le siège de l'amour, non? Le centre. Et si le cœur s'arrête, ben c'est fini. Et le pape a fait de la Bangui la capitale spirituelle. Nous disons cela. Il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on devienne à la hauteur pour véhiculer le message spirituel à tout l'ensemble. La miséricorde nous a touchés de l'intérieur. Et nous ne pouvons pas dire seulement on a entendu, nous l'avons vu, on l'a touché, on l'a expérimenté. Puisque papa salué, il a touché des malades, il a pris des enfants dans ses mains, il a vu des adultes, il a confessé. Maintenant, soyons témoins. Parce que le christianisme, c'est ça, c'est les témoins qui annoncent la mort et la résurrection. Ils sont convaincus. Ils ont fait une expérience personnelle. Nous venons faire une expérience personnelle. Il faudrait qu'on ne soit pas amnésique plus tard, qu'on puisse en parler aussi. Donc nous avons un devoir immense de propager cela. Et ça commence déjà chez nous et après être diffusé un peu partout. Les Nations Unies, c'est une grosse machine. C'est le machin, là. Mastodonte. Hein? Et il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup. Nous, on a besoin, je dis souvent, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui est malade et tout, j'ai pas besoin de faire beaucoup de procédures. Il faut que je donne les 10 sous pour aller soigner, acheter un médicament pour sauver ces vies-là. Donc, faut pas attendre. On travaille en collaboration avec les Nations Unies, mais c'est lent. Vous avez l'impression que c'est lent. Il y a des choses faciles que ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi tout, il y a un lobby aussi, hein, à l'intérieur, qui joue son rôle aussi. Et nous l'avons vu aussi, qui tire des ficelles, hein, un peu partout.
Et les Nations Unies interviennent sur des projets, je mets sur mon nom, mais ils interviennent sur des projets, par exemple, je ne sais pas, de construction ou de reconstruction d'écoles,
là maintenant, on est au début. Ils ont dit, ils n'ont pas assez de moyens, hein, pour se lancer dans. Parce que déjà, c'est beaucoup, 12 000 personnes à prendre en charge déjà là-bas. C'est énorme et tout. Et les écoles, on n'a pas encore lancé ces projets-là. Mais nous, on n'attend pas. En tant qu'Église, on commence déjà à le faire à notre niveau. On a encore des gens qui sont sous des paroisses. Hein. Il y a des gens qui ont tout perdu. Quelqu'un qui part au boulot et de son lieu de travail, il apprend que sa maison a été brûlée. C'est fini. Il rentre, il n'y a plus rien. Il rentre même pas à la maison. Il rentre sur un lieu de site. Peut-être où se trouvent sa femme et ses enfants. On a des cas comme ça. Donc il a tout perdu. Il lui reste seulement la tenue. J'ai vu un monsieur qui était venu pleurer comme un enfant devant moi. Je reviens du travail, j'ai tout perdu. Ma femme est là et je n'ai plus rien. Vous savez, chez nous, beaucoup de gens ne déposent pas leur argent à la banque. Hein. Ils les gardent, ils les cachent sous les lits, un peu partout dans la maison. Et quand une maison brûle, c'est fini. On a brûlé aussi ta fortune. C'est fini. C'est dur. Et il faut recommencer à zéro. Et quand vous avez perdu deux, trois fois les choses, ça reste dans votre tête. Vous êtes très méfiant pour repartir. Là, on a encore beaucoup de gens, encore sur les paroisses et sur les lieux d'église. Et nous espérons vite les accompagner pour regagner leur vie. Parce que c'est pas aussi la solution. Ce qui arrive actuellement fragilise, rend des familles vulnérables. Pourquoi? Vous avez une grande salle comme la nôtre, tout le monde est là, beaucoup de familles et tout. Au fait, les parents dorment derrière, il y a les enfants, les jeunes qui sont là entre eux. Vous avez vu spontanément, vous avez mis les jeunes ici, non? C'est comme ça aussi. Les parents sont derrière, les jeunes sont là. Mais après 22h, 23h, les jeunes sortent pour aller jouer, pour discuter et tout. Donc on a beaucoup de jeunes de 14 ans, 16 ans qui sont enceintes, les jeunes filles. Oui, parce que quelle autorité parentale il va avoir? Il est là-bas au fond, il sait pas est-ce que sa fille, ah, là, c'est intenable, peut pas tout le temps regarder où est ma fille. Non, ben voilà, elle est là devant, peut-être qu'elle est sortie avec un copain et tout. Bon, voilà, c'est cette situation réelle que nous vivons actuellement. Donc nous voulons que ses parents regagnent leur maison pour retrouver leur autorité parentale, puis ça va une vie, l'intimité aussi, parce que être là au vu aussi de tout le monde, c'est pas aussi digne de ce nom. Mais comment trouver les moyens pour les aider? Ce sont des questions qu'on se pose.
Vous avez commencé d'ailleurs à y répondre un petit peu, mais vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont passées à Bangui, qu'il n'y a plus de barrières, qu'il n'y a plus de choses comme ça. Mais là, ce qu'on a fait, c'est quand même un pays qui est assez grand. Et, il y a deux ans, quand vous étiez venu, vous nous avez dit qu'il y avait aussi eu beaucoup de gens qui étaient arrivés du Tchad.
Oui. Hein, qui avaient...
Qu'est-ce que ça devient, je dirais, dans des endroits peut-être un peu plus isolés, plus près de la frontière tchadienne? Est-ce que la situation est la même? C'est-à-dire que est-ce que cet espoir se recouvre avec la même dimension ou... C'est encore un peu plus dur et il y a encore beaucoup de travail à faire.
Alors, il faut vous le dire que vers la frontière avec le Tchad, c'est encore des rebelles qui sont repliés avec leurs armes et bagages. C'est eux qui sont les seigneurs de cette terre-là. C'est eux qui décident. Vers Pandoro, en allant par là-bas. Si vous allez aussi à l'est, il y a encore ces seigneurs de guerre, au centre aussi, qui ont replié avec bagages. Là où il y avait quelques communautés musulmanes, soi-disant, on vient protéger la communauté musulmane. Et ils s'installent, et ils sont là, avec armes et bagages. Et ils font les raquettes. Ça veut dire les formalités. Donc, ils sont encore là. C'est eux, je disais tout à l'heure, qui disent, nous voulons être représentés au gouvernement. Or, on nous a marginalisés. Le président leur a dit, vous n'avez pas un rôle politique à jouer. Vous avez pris les armes, vous êtes militaire. On doit traiter votre cas en tant que militaire. Je veux traiter avec les politiques. La fonction du gouvernement, c'est politique. Mais ils sont pas, parce qu'eux, ils prennent les armes, c'est pour être aux politiques. Vous voyez le quiproquo actuellement, hein, entre le président et ils sont là. Donc, ils font la pression. Et il bombe encore les biceps pour montrer qu'on existe, pour qu'on nous tienne. On sait bien qu'on place la barre très haute pour obtenir peut-être le minimum. Et ils font la pression actuellement. Donc ils sont encore là. Avec armes, on n'a pas encore des armes.
Et donc ces rencontres, le fait que vous témoigniez tout à l'heure, c'est des choses qui se rencontrent moins dans ces temps.
Quand se rencontrent moins, on tolère. Bon, avec dans le tout le pays, comme je vous dis, l'esprit de paix que le pape est venu. Je peux vous dire que a circulé avant la venue du pape et le jour J, même les évêques nous ont dit, les chrétiens les ont témoigné. Tout le monde, c'est comme les matchs de football. Quand la France joue, on a l'impression que tout s'arrête. Tu vois les gens devant la télé et tout le monde suit. Et quand il y a un but, tout le monde, on a l'impression qu'on est tous concernés, les cris partout. Mais les gens étaient en groupe autour des postes radio. Ceux qui avaient les télés poursuivent en direct. Donc, quelque part, ils ont été marqués. Cet esprit a circulé dans tout le pays. Donc, cet apaisement, c'est pour tout le pays. Mais différemment. Oui, vous n'avez pas encore parlé.
Vous parlez beaucoup des jeunes armés. Pas seulement des gens armés, mais vraiment des jeunes.
Oui.
Parce que ce sont des jeunes qui, au final, n'ont peut-être pas connu autre chose. Et comment vous faites pour les remettre sur le droit chemin et justement si vous organisez des actions peut-être avec les figures ou d'autres pays pour justement leur donner un message?
Chez nous, on a négligé l'éducation, c'est-à-dire la scolarité n'était pas considérée. On fait 4-5 mois parce que les enseignants, ils font la grève tout le temps, et ils ne sont pas payés par l'État et après on valide. Beaucoup de jeunes, ou soit qui ont fait les études, avec le bac, ils n'ont pas trouvé d'emploi. C'est celui qui est au pouvoir, qui met sa famille, ses gens de sa région, et tout. Et tout ça fait que on a préparé les bombes à retardement. Quand il y a des gens qui arrivent, qui disent, on va prendre le pouvoir pour que vous, qui avez été marginalisés, exclus, pouvez trouver une place, ils sont prêts à partir à l'aventure. Et on a eu. Et maintenant, nous essayons de leur dire, la solution n'est pas dans les armes. Nous nous mettons ensemble. Nous avons des groupes, des plateformes de jeunes pour réfléchir aussi ensemble. Mais certes, on peut réfléchir, mais comme je vous ai dit, le jeune, il a un stylo avant. Il a laissé, il a pris une arme. Et maintenant, je lui dis, avec cette arme-là, toi, adulte, tu arrives, tu dois lui donner l'argent. Et chaque fin de la journée, il compte l'argent. Même s'il a 17 ans. On l'appelle capitaine déjà. Ou bien colonel. Oui. Alors, maintenant, je vais lui dire, mon colonel, déposez votre arme, prenez le stylo pour repartir en seconde. Il veut dire qu'il va obéir. Oh là, c'est les adultes qui lui obéissent. Vous voyez? Ces jeunes-là, nous nous sommes dit, il faudrait proposer une autre alternative. Ça veut dire des formations sur le tas. Que tu vas travailler, tu vas avoir quelque chose. En même temps, il faudrait expliquer en quoi consiste le travail de maçonnerie. Hein, qu'il s'imprègne vraiment là-dessus. Et c'est ce travail en alternative. Nous avons parlé avec la communauté internationale, disons, si on ne fait pas cette proposition, les jeunes, ils pourront pas retourner à l'école. Ils vont pas manger le stylo. Et je disais aux gens, vous savez, les jeunes au village, c'était le vin de palme. Maintenant, ils sont à la capitale, ils ont bu la bière. Et vous leur dites de retourner pour boire le vin de palme? Non, il ne va pas retourner. Et je reste à la capitale. Quitte à me faufiler pour braquer et tout. Donc, il y a un travail à faire pour ensemble pour cela. C'est ce que nous essayons de faire. Et immense. Parce qu'on a laissé, on est arrivé à un non-état. Ici, en France, il y a quand même... Les bâtiments sont restés, mais là, sinon on avait détruit les bâtiments, même les hôpitaux, qui sont les sanctuaires, on les détruisait, les écoles, on rentrait, on brûlait, tout, les actes de naissance sont brûlés. Alors, ça veut dire que c'est on va dire les barbares, on va dire les vandales, qui sont arrivés chez nous. On trouvait les actes de naissance par terre,
et tout. J'ai dit, mais est-ce que les gens mesurent la portée de cet acte-là? Mais ils ne connaissent pas la paperasserie. Et maintenant, tout ça, il faudrait apprendre. Donc, on aura une génération intermédiaire préparée avant d'espérer d'avoir beaucoup de gens qui vont faire les grandes études et tout. Il y en a un qui le feront, mais ce ne sera pas la majorité. Puisque la majorité s'est engagée dans cette voie, ça sera difficile. Puisque les parents aussi sont devenus précaires. Ils n'ont pas les moyens pour les prendre en charge. Et le jeune doit avoir quelque chose à 17 ans, 18 ans. Et comme il a commencé à se prendre en main, il faudrait lui trouver quelque chose. Ce travail-là. Formation professionnelle. Merci. Aider, comment nous aider? Première chose, c'est prier beaucoup pour nous. Parce que ce qui se passe, il y a une dimension spirituelle, non négligeable. Priez, déjà, beaucoup. Et si vous avez les moyens financiers que vous voulez aider, passez par AED pour aider. Nous avons beaucoup de projets, on passe toujours par le canal officiel. Et il y a des projets, hein. Si vous voulez avoir un projet à vous seul, hein, Christine peut vous donner un projet à vous. Les priorités. Alors une des priorités actuellement pour moi, c'est l'éducation. Parce qu'on ne peut pas continuer à sacrifier. Ça, c'est des bombes à retardement. Ces jeunes qu'on laisse dans la brousse et partout, là. Il faudrait s'en préoccuper. Si moi, je ne me préoccupe pas d'eux, ils vont se préoccuper de moi. Oui, parce que quand il a fumé, il a déjà fumé. Et quand il a déjà pris la drogue, il va plus. Tu dis, hey, mon Seigneur, on pense à lui dire rien. Il va te braquer. Donne-moi l'argent. Et nous avons vu ça. Faut pas se leurrer. Et donc, il faut que je me préoccupe d'eux. Montrer que je les aime. Et que je les prends en charge pour les aider. Je dis, il me faut. Il y a actuellement, j'ai monté un projet en disant, il faut 50 écoles villageoises. Tu fais 120 kilomètres, il n'y a même pas une école. C'est normal. Tous ces enfants de 7-8 ans sont souvent à la pêche ou au champ. C'est normal. Et après, quand tu vas leur raconter, ils vont prendre pour argent comptant. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils ne savent pas écrire leur nom et tout. On est au 21e siècle et on a des situations réelles comme ça. Il nous faut quand même réagir par rapport à ça. Les santé, pour un oui, pour un non, le palu, on meurt. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, pas de paracétamol pour donner. Parce qu'on a tout détruit et tout. Moi, je pars dans Ambrousse, on soigne jusqu'à minuit. Incroyable, mais vrai. Il y a des brousses à 120 dans l'intérieur, non loin de Bangui. C'est comme si vous êtes à 2000 kilomètres. Les enfants n'ont jamais vu le groupe électrogène. Incroyable, mais vrai. La première fois où on est arrivé dans le village avec le groupe électrogène, on démarre le groupe, les enfants ont fui. Ils ont eu peur, ils ont fui. Ils n'ont jamais vu ça dans le village. C'est la première fois qu'ils voient ce genre de choses. Et après, un jour, le même jour, un jeune, tellement ils étaient contents, on a mis la musique et tout, pour la pastorale, la catéchèse et tout. Et on écoutait la musique religieuse. Un des jeunes qui était très content, il vient, on a dit, bientôt on va arrêter. Il a dit, non, il faut laisser continuer. Il dit, mais on doit mettre le carburant. Il dit, je vais acheter. Mais il n'a pas d'argent, il n'y a même pas de carburant à côté. Il faut faire 100 kilomètres. Mais il est tellement, pas naïf, mais heureux et tout. Et donc il le dit, avec son bon cœur. Donc ça veut dire, voilà les situations réelles. Et ça, il faudrait qu'on s'en inquiète. Sinon, au fait, cette population de qui c'est des proies faciles pour ces gens qui veulent le pouvoir. C'est eux qui les utilisent. Quand vous voyez les bondés dans les camions avec armes, c'est les jeunes. Rares sont des vieux qui partent se sacrifier. C'est les jeunes qui partent beaucoup se sacrifier en martyr. On les prépare et tout, et ils partent pour attaquer et tout.
Non, mais il faut autre chose, une autre alternative.
Oui, je voulais te poser la question, vous parlez des écoles, mais est-ce que l'Église a des possibilités d'ouvrir des écoles?
Oui, 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 l'Église a des possibilités d'ouvrir des écoles. Si les amis nous aident, on peut ouvrir des écoles confessionnelles, c'est permis. Beaucoup de gens chez nous ont été, les anciens sont formés par les écoles catholiques. Il y a eu la nationalisation et bon, maintenant on cherche à récupérer certaines écoles ou à construire des écoles catholiques. Je vous ai dit tout à l'heure, quand les moments les plus difficiles, il n'y avait que les écoles, soit catholiques ou les séminaires qui marchaient. Les autres écoles ne marchaient plus parce que les enseignants ne sont pas payés. Or, nous, nous arrivons par nos réseaux d'églises à trouver des fonds pour payer les enseignants. Donc, ils continuent à donner des cours à nos enfants dans nos écoles. Donc, ça, c'est aussi ça.
Je trouve mieux aussi un petit témoignage vécu au grand séminaire. Et il y a là une grande église qui permet aux séminaristes et aux professeurs de se prier chaque jour. Et donc, à cause des événements, le site du grand séminaire, comme tous les sites de l'église catholique, sont bondés jusqu'à 9 000, 12 000 personnes passées. Et les pluies torrentielles sont arrivées. Et donc, il était impossible pour les gens de demeurer sous une bâche qui, évidemment, les protège très très peu. Et donc, toutes les églises, dont celle du grand séminaire, a ouvert ses portes, de manière que la nuit, au moins, il soit à l'abri. Et le recteur, le père Édouard, nous racontait que pendant cette saison des pluies, quelle que soit la religion de ces personnes, elles entraient le soir, dormaient sur une petite natte, les uns sur un côté des autres, et au tout petit matin, parce qu'en Afrique, on se lève très tôt, pour la célébration de la messe, les prières, tout le monde, très tôt, sachant qu'il y aurait l'Eucharistie, et je vois la prière du matin, roulait sa natte et quittait l'église après avoir nettoyé. Et c'est vrai que quand on voit ces personnes qui, dans la journée, étaient à côté de l'église, on se dit vraiment magnifique de respect du lieu qui les accueillait.
Et la meilleure, c'était les musulmans qui dormaient dans l'église, qui étaient protégés par un jeune prêtre, mon chancelier actuel. Ils dormaient dans l'église et très tôt le matin, ils sortaient. Et c'est eux qui balayaient, qui nettoyaient pour laisser les chrétiens rentrer, prier.
Ah. Par exemple, s'ils étaient chrétiens ou musulmans ou protestants, et ben, pourquoi ils auraient fait ça? Parce que normalement, dans toutes les religions, dans ces trois religions, et ben, on a dit de ne pas tuer.
Mais tu parles comme nous. Hein. On avait dit dans toutes les religions, il a dit, tu ne tueras point. Ça, c'est notre mot d'ordre. Et vous savez, papa et maman te disent souvent des choses. Il y a des choses que tu fais, mais ils ne t'ont pas dit ça. Hein. N'est-ce pas? Hein? Tu décides parfois, on t'a dit, eh ben, il y a des choses à faire, ne pas faire. Bon, tu le sais, c'est ce qu'ils te disent avec leur conviction. Mais toi, tu peux aller faire autre chose. On a nos enfants chrétiens qui n'ont pas voulu nous écouter, qui ont écouté d'autres voix et qui ont tué et qui ont fait du mal. Et nous leur disons, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, nous leur disons, vous pouvez revenir vers le droit chemin. Ça veut dire laisser ce chemin de tuerie, de mort et tout. Qu'il y a une chance pour vous de revenir vers nous. C'est ça la démarche des parents. Tout le temps, ils doivent ouvrir les bras pour accueillir l'enfant qui s'est égaré, pour l'embrasser, hein, lui dire, on continue à t'aimer. Malgré ce, parce que tu as, même si tu as cassé le verre, tu es toujours mon fils.
Les moyens des politiques
parce que bon, vous aviez expliqué, bon, le gouvernement a été écarté. Bon, après, il y a eu une femme qui était en transition.
Pour l'instant, il n'y a pas de moyens, il faut dire la vérité. Vous avez vu les grands lieux où il y a les diamants et tout, c'est là où il y a les rebelles. C'est eux qui sont en train d'envoyer le diamant vers le Tchad, vers le Soudan, qui va en Iran, un peu partout, dans plusieurs pays. On le sait ça. On ne le dit pas, mais c'est la réalité. Donc lui, il n'a pour l'instant, il vient d'arriver, il n'a pas encore les moyens. Il faut d'abord qu'il puisse asseoir son autorité. Ça veut dire qu'au niveau de l'administration, qu'il soit accepté, et petit à petit, il pourra se redéployer. Mais pour l'instant, ce qui se passe dans les zones minières, ils contrôlent pas du tout. Je peux rien dire. Ils sont hyper armés. Et c'est pas les Nations Unies qui vont commencer à les attaquer, mais non.
Les églises, elles ont une force derrière. Vous avez le pape, tout ça. Le président, lui, il puise ses forces où, en ce moment?
Pour le moment, il puise sa force dans le peuple. C'est le peuple qui l'a élu, hein. Hein, c'est le peuple qui l'a élu, puis sa force, et il a une légitimité venant du peuple. Mais c'est un peuple aussi réduit à la pauvreté, et qui n'a pas assez de moyens pour donner la force. Parce que si vous voulez parler, il faudrait que vous puissiez avoir l'autorité, doit être accompagné aussi des moyens. Si vous n'avez pas les moyens, votre autorité ne sera pas fiable. Faut qu'on vous donne les moyens, hein, de traduire l'autorité, exprimer votre autorité. Et lui, pour l'instant, bon, la communauté, il passe pour que la communauté internationale l'aide. Et après, petit à petit, on espère que, il pourra commencer à recouvrir les impôts. Parce que actuellement, ce qui se passe, ça profite beaucoup. Il y a des gens qui veulent pas que ça puisse finir. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 100%. Il sort son diamant, il ne paye rien à l'État. Il vend tout l'argent, c'est à lui. Or, quand il y aura l'État, il doit payer des taxes. Et ça, il n'aime pas. Ça doit continuer. Il préfère les petits rebelles là, il leur donne un petit sou et lui, il est parti avec les millions. Ça, il faut pas se leurrer. Donc, il y a des gens qui entretiennent. J'en avais vu de mes yeux quelqu'un qui était dans les zones minières et qui entretenait les gens le long de la route pour ne pas que les militaires reviennent. Parce qu'ils vont lui demander plus.
Merci infiniment, Monseigneur, pour tout ce temps donné. Et je pense que c'est le moment de prendre un petit dessert. Mais il me semble quand même qu'il est bon que nous sachions d'où vient Monseigneur Ouédraogo. Alors, Monseigneur... Monseigneur Zapalam Dieudonné vient donc de Bangui.
J'ai promis de vous apporter la prochaine fois une carte plus récente. je ne vois pas le Burkina ici.
Voilà. Haute Volta.
Voilà. On m'a mis Haute Volta. Alors que je suis Burkina Faso depuis 1984.
Et vous voyez comme l'église en détresse a besoin de moyens. Mais ça permet quand même à vous tous de savoir que Monseigneur vient d'ici.
Deux pays ayant légèrement la même forme. La Centrafrique un peu plus grand.
Et un pays extrêmement catholique. Alors même que la grande majorité de la population est musulmane, mais il y a un dynamisme catholique absolument exceptionnel. Il y a 15 diocèses dans ce pays, et vous voyez ici la Guinée-Conakry, qui est ici, on peut dire à peu près du même format, même taille et tout ça, 3 diocèses, à cause de l'histoire, parce que c'était Sékou Touré qui fut le... Et donc, mais nous avons ici une église d'un dynamisme très exceptionnel.
Oui, on est autour de 23% de catholiques. Avec les protestants, on arrive à 24-25% de la population. Mais on a quand même une influence et un impact inversement proportionnel à nos
églises. Ce qui est vrai.
Les musulmans sont autour de 58%. Bon, mais les relations, c'est vrai, on ne peut pas se plaindre, les relations sont très bonnes entre catholiques, protestants et musulmans. Il y a même beaucoup de choses que nous réalisons ensemble. Et c'est vrai que dans nos pays, bon, c'est pas comme ici, je vois au Burkina, dès qu'il y a une large consultation que le gouvernement souhaite, il demande aux communautés religieuses comme telles de lui envoyer des représentants, des délégués. Bon, président de la conférence épiscopale, on m'a saisi hier parce que le président du FASO vient d'écrire et demande à la communauté catholique de lui envoyer deux personnes pour faire partie du conseil du comité constitutionnel. Mais un comité qui doit rédiger la constitution de la 5e République, et donc il demande que nous leur envoyions deux personnes. Le secrétaire m'a saisi hier pour me dire, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, je lui ai donné la réponse aujourd'hui. Voilà. Donc on va y envoyer un prêtre et un laïc. Alors, et là, nous avons eu, comme eux, une transition, chez nous, quand même, beaucoup plus simple. Bon, parce que nous, c'est vrai que après un régime de 27 ans avec le président Blaise Compaoré, il a voulu changer la constitution en son article 37 qui limitait le nombre de mandats à deux. Bon, mais en fait, en 91, c'était déjà limité à deux. En 97, pendant qu'il n'y avait pas de problème, ils ont fait sauter le verrou. En 98, il y a eu l'assassinat d'un journaliste très renommé au Burkina. Alors ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le pays est devenu ingouvernable. Il a été obligé de faire appel aux communautés religieuses une fois de plus dans le collège de sages qui a été présidé par un évêque, l'évêque de Bobo-Dioulasso à l'époque. Bon, j'étais avec lui, c'est deux évêques qu'on avait envoyés, et j'étais à Padang, diagnostiquer un peu les problèmes qui étaient là, et puis on leur a demandé, mais vous avez touché à quelque chose de très sensible, il faut ramener l'article 37 de la Constitution à sa place. Donc ils l'ont ramené à sa place, mais ils ont réduit le mandat à 5 ans, il a fait donc après 2 septennats, il a fait 2 quinquennats, et il voulait de nouveau modifier la constitution. Bon, pour, alors là, bon, le peuple est sorti. Bon, c'est plus d'1 million de personnes dehors. Bon, ça suffit, c'est pas possible. Donc, en fait, il a été obligé d'abdiquer, de partir, et puis en même temps, il a quitté le pays. Et nous nous retrouvons, bon, ben, un militaire a assuré 3 semaines. Bon, la stabilité des institutions, mais avec la pression internationale, et puis bon, nous-mêmes, en fait, on n'avait pas besoin d'un militaire comme président. Donc, on cherchait un président civil. Il y a des gens qui ont eu l'idée saugrenue de penser que ça pouvait être moi. Bon, parce que c'est vrai que j'avais été dans le collège, dans le premier comité pour la constitution, j'avais été dans ce collège de sages. Et puis bon, je sais pas quoi encore, j'ai dit non, mais moi, la présidence, elle ne m'intéresse pas du tout. Dans tous les cas, c'est pas mon travail. Vous devez, parmi tous les Burkinabés qui sont là, si vous cherchez bien, vous devez pouvoir trouver un président. Et moi, si je suis obligé d'être président, ça veut dire que moi, même ceux que j'ai formés, il n'y en a pas un parmi eux qui peut remplir la tâche. Alors ça veut dire que j'ai complètement échoué. Voilà, si on en a formé, c'est pas nécessaire que moi-même je descende dans l'arène. Bon, ils ont fini par trouver un président, bon, et ça va, ça a marché assez bien, mais c'était quand même difficile parce que, bon, ceux qui avaient exercé le pouvoir pendant 27 ans avaient du mal quand même à se faire à cette nouvelle situation. Et comme c'est une insurrection populaire qui a envoyé le président dehors, c'était difficile pour eux de retrouver quand même voix au chapitre, donc on leur a dit, pour les 5 années à venir, là, laissez-nous tranquilles. Nous, on va remettre le pays sur les rails. Après, si vous voulez compétir, vous pouvez venir. Et c'est cela qu'ils avaient du mal à accepter. On m'a mis président d'une commission de réconciliation nationale, parce que là aussi, dans des pays comme ceux-là, les exactions, il y en avait plusieurs. Bon, on a tué, on a mis en prison, on a torturé, on a spolié, on a brisé des carrières professionnelles, et puis bon. Alors, nous avons recensé plus de 5000 dossiers le conflit pour lequel bon, des Burkinabés ont été blessés et demandent en fait un peu réparation. Bon, alors, ça c'est le travail qu'ils vont commencer. Moi, bon, quand même, après un an de transition, on était presque à la fin, un coup d'état militaire. Voilà, donc, les commandos qui rentrent en plein conseil des ministres, qui prennent le président, son premier ministre, et les membres du gouvernement, qui les gardent en otage dans une salle. Et puis bon, alors, moi, le chef d'état-major général des armées qui m'appelle, dit, bon, vous savez ce qui nous arrive, moi je suis à Bobo, à 360 km de Ouagadougou, moi je suis là. Bobo du Lasso, et les choses se passent ici au centre. Il dit, bon, ben, vous savez ce qui nous arrive, j'ai dit non. Il dit, ben, il y a les commandos qui sont rentrés au conseil des ministres, ils ont pris le président, le premier ministre et le gouvernement en otage, et nous cherchons des gens pour négocier. On a été à l'archevêché, le cardinal n'est pas là. J'ai dit, oui, le cardinal, il est aux États-Unis, il n'est pas au pays. Mais vous, vous êtes où? Je dis, bon, je viens de quitter Bobo, je viens à Ouaga, mais pour autre chose, pour une autre réunion. Non, non, dès que vous allez arriver, il faudra prendre contact avec nous. Et effectivement, à 20h, j'étais là avec l'ancien président, Jean-Baptiste Ouédraogo, avec les militaires, bon, en train de négocier avec les putschistes pour savoir s'ils pouvaient faire marche arrière ou s'ils pouvaient pas faire marche arrière. Bon, à certains moments, ça semblait progresser, et puis à d'autres moments, non, ils reviennent, ils disent non, non, c'est pas possible, on peut pas faire marche arrière. Je dis bon, mais vous pensez que vraiment le coup de force là, il est assumé? Bon, je comprends pas, vous prenez une décision qui va plonger ce pays dans une guerre civile, alors que vous aimez ce pays. Et vous croyez que c'est une solution, un coup de force aujourd'hui, ça ne peut pas passer ni au niveau national, ni au niveau international, mon général. Ah, il dit, ben, c'est trop tard, le vin est tiré, il faut le boire. Bon, il me dit, mais est-ce que vous voulez discuter avec les putschistes eux-mêmes? Bon, je dis, ben, s'ils sont prêts à discuter, allons-y. Alors bon, en pleine nuit, à 1h du matin, on se débarque maintenant, en pleine caserne militaire. Bon, assis avec eux, ils disent, bon, non, non, mon seigneur, c'est pas la peine. Vraiment, maintenant, là, c'est bon. Nous sommes fatigués. Nous, ce que nous avons fait, là, c'est bon. On ne va pas reculer. Et puis, dites à vos jeunes, là, de ne pas venir par ici. Parce que s'ils viennent pour manifester, même à 1000, bon, à 1000, nous, on va les poser par terre. Il dit, bon, d'ailleurs, les otages, bon, eux, ils sont une trentaine d'œuvres, vraiment, ça suffit. Oh, et puis, mais vous-même, c'est pas sûr que vous sortiez vivant d'ici. Alors, je lui réponds, je dis, mais moi, je suis pas venu pour sortir vivant. Moi, je suis venu parce que ce pays que nous aimons tous, il a des problèmes, nous cherchons une solution. Maintenant, si vous pensez que ça peut faire partie de la solution, c'est pas un problème pour moi. Bon, alors, du coup, ça a baissé un peu. Et puis, bon, au bout d'une heure, ils ont dit, bon, on va réfléchir. Bon, on va réfléchir. Nous, on retourne encore voir la hiérarchie militaire. Bon, là, le général qui était au devant des opérations, il dit, bon, oh, pour lui, vraiment, c'est trop tard. Le coup de force, il est consommé. Bon. Alors, moi, je dis au chef d'état-major, général des armées, je suis là depuis 20h, il est 3h30 du matin. Moi, j'ai besoin d'une escorte pour rentrer chez moi. Puisque vous dites que le coup de force est consommé. Et puis bon, ben, on s'est levé, on est parti. Ils ont effectivement pris le pouvoir, mais ça a duré une semaine parce que les négociations ont continué. Et puis bon, au bout d'une semaine, ils acceptaient quand même de rendre le pouvoir au président de la transition. Et c'est comme ça que nous avons pu terminer notre transition. C'était prévu pour un an, bon, on a prolongé un tout petit peu, mais nous, ça va, on s'est tiré d'affaire un peu mieux que vous, parce que chez nous, en fait, il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a pas eu d'affrontement entre les communautés. Bon, c'était en fait de la querelle entre politiciens, entre partis, bon, ça a été assez facilement maîtrisé. Donc voilà un peu. Donc quelquefois, nous sommes au cœur des événements comme ça en Afrique. Les autorités religieuses, oui, ça c'est sûr. Mais on est là pour la paix aussi. Ouais.
Monseigneur, comment vit le pays depuis l'attentat de
Le?
Comment va le pays depuis les attentats?
Bon, depuis les attentats, ça va. C'est calme. Bon, c'est malvenu parce que Nous venions de terminer brillamment cette transition avec des élections vraiment très, 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 très correctement organisées, avec les résultats qui sont tombés 24 heures après les élections, ce qui est rare en Afrique, parce que là, on a mis tous les moyens, Internet et puis tout, pour transmettre les résultats. Alors donc, on était encore en train de savoir, et pas de contestation, aucune contestation, tous les candidats ont accepté les choses, les élections. Donc, on était en train de savourer ça lorsque, bon, on a été surpris quand même par cet attentat du 15 janvier. Bon, évidemment, ça fait un coup. Bon, ça a juste multiplié les contrôles sur les routes. Bon, on essaye de voir quand même qui circule et avec quoi il circule, s'il ne circule pas avec des armes. Mais d'une façon générale, le pays a retrouvé son calme et puis bon, ça va. Les activités ont repris, il n'y a pas eu de problème. Et comme très rapidement ça s'est déporté sur la Côte d'Ivoire, bon, donc ça fait que on est vigilant, mais en même temps on se dit que bon, c'est quelque chose qui est arrivé, mais en principe, on n'est pas un terrain qui pourrait intéresser en fait les djihadistes. Voilà, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas beaucoup de richesses. Bon, donc, on a beaucoup de sable, oui. Mais ça, ça ne les intéresse pas. Parce que souvent, je pense qu'un des problèmes de la Centrafrique aussi, c'est qu'il y a quand même des richesses. Et vraiment, là où il y a la richesse, là commencent les conflits.
Voilà, Monseigneur, là, ouais. Vous avez quand même 722 ONG en provenance du Yémen, ouais. De l'Arabie Saoudite, ouais. Qui est en train de s'installer gentiment chez vous. 722.
Oui, oui. Il y en a 722. Le seul problème, c'est que les premiers avec qui ils ont des problèmes, c'est leurs co-religionnaires musulmans. Voilà. Et c'est ça aussi qui nous sauve un peu. Bon, parce que même il y a 2 ans, je crois, il y a le cardinal. Les responsables musulmans sont partis chez le cardinal pour lui souhaiter la bonne année. Après, il y a des jeunes venus de je ne sais où qui se sont levés pour aller dire à leurs responsables musulmans, dit non, 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 c'est fini ça, on ne veut plus de ce genre de visite-là, vous êtes partis faire quoi chez lui? On n'est pas de la même religion, donc, d'ailleurs, dites-lui qu'on ne veut plus le voir chez nous à notre prière. Et si vous avez peur de le lui dire, nous-mêmes, on va aller le lui dire. Bon, là, ils ont eu un coup de semonce, quand même. On a dit, non, vous n'êtes pas des jeunes Burkinabés, parce que si c'est au Burkina Faso, ce que vous dites là, ça ne tient pas de vous. Voilà. Et on continuera, comme des Burkinabés, à nous respecter, et il n'y a aucun problème. Moi, quand à la Tabaski ou au Ramadan, je vais à la célébration des musulmans, ils nous donnent de quoi nous asseoir, on attend qu'ils finissent de prier, on leur souhaite la bonne fête, et puis on s'en va. Et à Noël, comme à Pâques, c'est la même chose, ils sont chez nous. Ça ne pose pas du tout de problème. Donc ceux-là, on a l'œil dessus quand même, parce que ça, c'est une question de vigilance communautaire. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Ah, mais on a beaucoup prié pour nous. Merci.
Je pense que c'est le moment de prendre un petit dessert.
Ah, voilà, ça nous fera du bien.
Monseigneur, pardonnez-moi, je ne vous ai pas apporté un verre d'eau.
Non, nous, ça va.
Bonjour.